Et oui, c'est déjà la mi-janvier, 15 janvier 2018. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien.
Bon lundi Hélène.
Avez-vous pelleté en fin de semaine? La question.
Bien sûr.
Ah, vous êtes courageux.
Ben, si on veut sortir de chez soi, on n'a pas nécessairement le choix.
Non, pas vraiment. Mais c'était comme une activité de plein air en fin de semaine. Les gens, au lieu d'aller faire du ski, ont fait du pelletage.
Oui, mais même certains cas de patinage également.
Ah oui?
En dessous de la neige, il y avait de la glace.
Ah oui, c'est vrai. Sans patin même.
Sans patin, donc c'était dangereux. Mais j'ai pris mes crampons aujourd'hui pour être certain de me rendre au travail.
Oui, vaut mieux être prudent que pas du tout, comme le dit un adage que je viens d'inventer. Alors, vos éphémérides, cher Jean-Sébastien.
Ben, en ce 15 janvier, en ce lundi, donc vous l'avez mentionné, troisième lundi, déjà le milieu du mois, troisième lundi de l'année, et c'est ce qui lui vaut le sobriquet, ce troisième lundi de l'année, de Blue Monday, le lundi bleu, apparemment, ouais. Que le troisième lundi du mois de janvier est déterminé scientifiquement comme étant la journée la plus déprimante de l'année. Je n'ai pas le nom des scientifiques qui apparemment auraient fait ce constat-là, mais pourquoi est-ce le Blue Monday? Mm-hmm. De un, c'est un lundi, donc déjà, ça part mal.
Pas toujours facile.
De deux, Noël et les résolutions du jour de l'an semblent déjà bien loin, mais les cartes de crédit de Noël, elles, sont dues. Donc, pour certains, ça pèse dans la balance. Et finalement, quatrièmement, c'est l'hiver et il fait froid, il fait sombre. Donc, semble-t-il qu'aujourd'hui, journée très difficile pour le moral et pour le portefeuille et pour tout le monde.
Mais il fait sombre, mais pas en ce moment. La lumière est tellement belle avec ce blanc, puis ce soleil. Ça remonte le moral. Quand
ça,
on regarde ça de l'intérieur, là, c'est vraiment des images de carte postale.
Absolument.
Alors, pour ceux et celles qui ont le moral... À la baisse, on est avec vous.
Autre événement marquant, cette fois, on recule dans l'histoire. 15 janvier 1535, le roi Henri VIII prend le titre de chef suprême de l'Église d'Angleterre. 1559, couronnement d'Élisabeth Ière d'Angleterre. 1759, donc 200 ans plus tard, le British Museum est ouvert au public. 15 janvier 1826, les Parisiens découvrent le premier numéro de l'hebdomadaire Le Figaro. 1898, parution de Cyrano de Bergerac. 15 janvier 1919, chose qui m'a fait pas nécessairement rire. L'image peut paraître comique quelque peu, quoique grande inondation à Boston, mais grande inondation de mélasse. Un énorme réservoir d'une distillerie explose, libérant une vague haute de 6 mètres de mélasse.
Ah, on fait des crêpes! non, c'est pas drôle quand
non,
même.
Insolite tout de même. 8 millions de litres de mélasse noire qui se déversent dans une artère commerciale du centre-ville de Boston. Cette distillerie faisait du rhum. Mm-hmm. Et là, on trouve ça drôle d'imaginer de la mélasse, mais quand même, pour l'histoire, 21 morts et effondrement d'immeubles à cause de ce raz-de-marée de mélasse. Grande inondation de mélasse de Boston.
Ça avait été du rhum.
possiblement plus de morts que 21.
Des faux morts, peut-être.
15 janvier 1943, fin de la construction du Pentagone. 1991, fin de l'ultimatum fixé à l'Irak, annonçant le début de l'opération Tempête du désert. 15 janvier 2001, Wikipédia, l'encyclopédie collaborative en ligne, fait son apparition sur Internet. Et 15 janvier 2016, c'était il y a donc 2 ans aujourd'hui, des attentats au Burkina Faso à Ouagadougou. Tue au moins 29 personnes, on s'en rappelle. 15 janvier 1996, on perdait le musicien Leslie Thompson Baxter, ou plutôt Les Baxter, comme il était connu, le chef d'orchestre, arrangeur et compositeur américain, lui qui était né en 1922. Et finalement, en 2000, s'éteignait le père Georges-Henri Lévesque à l'âge de 96 ans, fondateur de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval en 1938, qui aurait été qualifié de père de la Révolution tranquille, rien de moins.
Merci Jean-Sébastien, bon Blue Monday.
Merci Hélène.
Et à la une de la presse aujourd'hui, prisonnier des zones grises, ils habitent à la frontière des territoires de deux commissions scolaires. En théorie, ils peuvent inscrire leur enfant à la commission scolaire de leur choix. Or, de nouvelles règles en voie d'être adoptées font craindre à des parents de perdre leur école de quartier. La chronique de Marie-Claude Lortie intitulée « Moi aussi, je dis » et « Maintenant ?» Point d'interrogation. Exclusive actualité commerce en ligne, Ottawa n'a aucune idée des sommes qui lui échappent. L'homme qui souriait du coin des yeux, Pops, fondateur de Dans la rue, s'éteint à l'âge de 89 ans. Et pause famille, reprendre entre parenthèses enfin le contrôle des écrans. L'article est signé Marissa Grosguet et Gabriel Duchesne. Le père Pops, mort dans la nuit de samedi à dimanche, existait à travers le bien qu'il faisait autour de lui. Il laisse derrière lui un héritage qui perdurera, d'après des témoins proches de son œuvre. Le fondateur de l'organisme Dans la rue s'est éteint à l'âge de 89 ans. Curé pendant 40 ans, le père Jones est devenu mieux connu sous le nom de père Pops lorsqu'il a décidé, en 1988, de tendre la main aux jeunes sans-abri de Montréal. C'est un précurseur, surtout pour un curé, estime le musicien Dan Bigra, qui a régulièrement croisé sa route à travers son rôle de porte-parole du Refuge des jeunes de Montréal. Selon lui, son ouverture et ses méthodes pour venir en aide aux jeunes en difficulté témoignent de la grandeur de l'homme qu'était le père Emmett Jones. Il voulait faire du bien aux jeunes et c'est ce qu'il a fait. Il était habité par une vision pour les aider et il y a dédié sa vie, dit Dan Bigra. Le père Pops possédait une bienveillance et une bonne humeur contagieuse qui suscitait la confiance illimitée des jeunes à son égard, raconte M. Bigra. Il souriait du coin des yeux, décrit-il avec affection. C'était un pain sans rire. Il avait un beau sens de l'humour dans le regard. Atteint de la maladie de Parkinson, le père Pops s'est néanmoins enquis jusqu'à la toute fin du bien-être des infortunés, auprès desquels intervient son organisme. On est allé le voir pour son anniversaire et il avait posé beaucoup de questions sur les jeunes, témoigne Étienne Lalonde, directeur principal du développement et des communications de Dans la rue. Il était toujours très alerte et intéressé. Le père Emmett Jones est mort dans la résidence pour personnes âgées où il vivait depuis quelques années. La mission du père Pops auprès des jeunes n'a pris forme que tard dans sa vie. Né le 3 avril 1928 de parents irlandais, Emmett Jones a grandi dans la paroisse de Sainte-Agnès sur le plateau Mont-Royal. À l'âge adulte, durant plusieurs années, il a travaillé comme prêtre, curé et vicaire de différentes paroisses, puis comme aumônier de l'hôpital Douglas à Verdun et dans deux maisons pour jeunes filles en difficulté. C'est lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans qu'il contracte un prêt personnel de 10 000 $ et met sur pied le Bon Dieu dans la rue. L'organisme perdra plus tard sa connotation religieuse pour devenir « Dans la rue ». Au volant d'une roulotte motorisée d'occasion, il sillonnait les rues du centre-ville durant la nuit, souvent en solitaire, afin d'offrir de quoi se nourrir et un endroit où se réchauffer aux jeunes qui en avaient besoin. Il donnait beaucoup de réconfort, il ne jugeait personne, il ne faisait jamais la morale, dit Dan Bigra. L'organisation a grandi et le père Pops a ensuite ouvert un refuge de nuit pour mineurs baptisé le « Bunker ». Puis, en 1997, il a établi un centre de jour où les jeunes peuvent suivre des cours, participer à des ateliers d'art, de musique, d'informatique, en plus d'avoir accès à du soutien psychologique. En avril 2009, l'école du centre de jour a d'ailleurs été rebaptisée l'école Emmett Jones. L'organisation Dans la rue emploie aujourd'hui 65 personnes et 135 bénévoles. C'est lui qui a parti tout ça. Il a changé de près la vie des gens, soulève M. Bigra. En 2008, le père Pops s'est retiré des activités de l'organisme, maintenant complètement géré par son équipe, qui assure la pérennité des valeurs du fondateur. « On va continuer l'œuvre de Pops, celle d'un accueil inconditionnel des jeunes sans les juger, tant que les jeunes en auront besoin », affirme Étienne Lalonde. Dans la rue fêtera cette année ses 30 ans d'existence. On aurait aimé qu'il soit avec nous pour cet anniversaire, mais on le célébrera avec sa mémoire en tête. We'll be right back. Ottawa n'a aucune idée des sommes qui lui échappent alors que les détaillants canadiens déplorent la concurrence de plus en plus féroce des sites web étrangers comme Amazon et eBay. Le gouvernement fédéral reconnaît n'avoir aucune idée des sommes qui lui échappent année après année en raison des taxes non perçues. Le manque à gagner se calcule en centaines de millions de dollars. La presse a demandé à l'Agence du revenu du Canada d'obtenir une copie de tout rapport, analyse, évaluation, recherche ou étude permettant de voir les pertes fiscales encourues par le Canada depuis 2010 en raison du commerce électronique. Trois mois après notre demande formulée en vertu de la loi sur l'accès à l'information, l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, a confirmé n'avoir jamais produit aucun rapport de recherche ou d'analyse sur le sujet demandé. Le ministère des Finances, piloté par Bill Morneau, navigue aussi dans le brouillard. Aucune donnée n'existe sur le montant des taxes non perçues, indiquait une porte-parole. Ottawa fait l'objet d'un feu de critiques depuis des mois en raison de son refus d'imposer la taxe sur les produits et services, TPS, au géant américain Netflix, une position que la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a eu bien du mal à expliquer. Et au Québec? Le gouvernement du Québec apparaît mieux renseigné que le fédéral quant aux sommes qui lui échappent. Revenu Québec estime à 40 millions les taxes non perçues sur les achats en ligne effectués au Canada et à 137 millions celles qui devraient être facturées sur les achats effectués aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour un total de 177 millions, a précisé la porte-parole Geneviève Laurier. En extrapolant ces chiffres à l'ensemble du Canada, on peut estimer que le fisc canadien se prive de près de 800 millions de dollars en taxes de vente non collectées. Le président du Sri Lanka a réimposé hier une loi interdisant aux femmes d'acheter de l'alcool quelques jours après son abolition. Le président Maithripala Sirisena a indiqué qu'il avait ordonné au ministre des Finances de révoquer sa décision prise mercredi dernier d'abolir la loi de 1979 qui interdit la vente de toute boisson alcoolisée aux femmes sur l'île de 21 millions d'habitants. Cette loi avait été abolie dans le cadre d'une lutte plus large contre le sexisme dans les textes de loi. L'assouplissement des lois sur l'alcool a provoqué des réactions hostiles dans certains pans de la société de ce pays, majoritairement bouddhiste. Le Mouvement national pour la protection des droits du consommateur a accusé le ministre des Finances d'encourager la consommation d'alcool. Un puissant séisme touche le sud du Pérou. Une personne a été tuée et 55 ont été blessés, selon la Défense civile, dans un séisme de magnitude 7,3 qui a frappé hier matin le sud du Pérou, suscitant la peur parmi de nombreux habitants surpris dans leur sommeil. Conflit israélo-palestinien, nous disons à Trump que nous n'accepterons pas son plan. L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle. Le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré hier son rejet d'une médiation américaine dans le processus de paix lors d'une réunion visant à réfléchir à une riposte à la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et pour terminer, les gigantesques coulées de boue qui ont déferlé la semaine dernière sur une partie du sud de la Californie déjà ravagée par de vastes incendies ont fait 20 morts jusqu'à maintenant, selon un bilan publié hier. Quatre personnes sont toujours portées disparues. D'après les services de secours du comté de Santa Barbara, le nombre de disparus pourrait varier significativement, tandis que les équipes de sauveteurs continuent de fouiller les débris et les bâtiments dans un environnement instable à la recherche de victimes. Samedi, le bilan était de 18 morts. My dear Lorenzo, you take my hand and understand the tears that I have cried. We light the candles and pour the wine and laugh as if you'll never leave my side.
You take me in your arms and tell me that I'll always be the only one. And then you're gone. Come to see me on a Saturday, presenting peonies, knowing just what to say. We dance until the break of dawn. I turn my back and then you're gone. Swirling in a sea of stars, twirling to the strum of guitars. No one tangles quite the way you do, but now my dancing days with you are through. You'd think I'd miss you each time you disappear. Maybe I used to, but it's becoming clear. I know your tricks, I've heard your song. You swear your love and then you're gone. Outside my door, you want back in, just like before. Well, save your breath, don't make me yawn. You've had your chance, now just be gone.
La formation Pink Martini et la pièce And Then You're Gone.
Et à la une du Devoir, une grande photo du père Pops. Le père Emmett Jones a reçu en 2009 le prix Thérèse Davio de la Ville de Montréal, remis à une personne engagée dans sa communauté et qui a œuvré à la qualité de vie des Montréalais. On peut lire Emmett Pops Jones, 1928-2018, « Les jeunes de la rue perdent leur père ». CSDM, 9 suppléants depuis la rentrée pour des écoliers. Et maintenant, solidaire derrière, moi aussi, plus de 180 Québécoises appuient les victimes de violences sexuelles et dénoncent la lettre du Monde, signée par 100 femmes, dont Catherine Deneuve. Les enfants d'une classe de maternelle de l'École de la Visitation à Montréal font les frais d'un problème de recrutement à la CSDM. Lundi, ils en seront à leur 9e professeur depuis le début de l'année, dont 6 depuis le mois de décembre, ce qui provoque frustration et inquiétude chez les parents. Et ce, malgré le fait que la commission scolaire était censée, dès cet automne, se doter d'un protocole justement pour éviter le phénomène des remplacements à répétition. Comme parents et collectivement, on choisit d'envoyer nos enfants à l'école pour qu'ils y fassent des apprentissages. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Quand ma fille arrive à la maison le soir, elle ne nous parle pas de ce qu'elle a appris aujourd'hui, mais du professeur de la journée, raconte Nicolas Gosselin, père d'une fillette dans cette classe de maternelle d'Hunsic. À la rentrée, les parents ont rencontré la professeure titulaire de la classe qui enseignait 4 jours par semaine. La 5e journée, les mardis, était assurée par une autre professeure. Cette situation, qui était un peu déstabilisante pour les enfants et les parents, n'était pourtant que le début d'une longue période de changement au quotidien. En effet, dès le début du mois d'octobre, la professeure est partie en congé de maladie. Une enseignante l'a rapidement remplacée, mais celle-ci est partie à son tour un mois et demi plus tard. Depuis, c'est la parade des suppléants, comme le décrit la mère d'un enfant de cette classe sous le couvert de l'anonymat. La CSDM affirme avoir pris un certain nombre de mesures pour limiter les impacts négatifs de ces nombreux changements. Depuis le 4 décembre à ce jour, une équipe de Répit Conseil est présente dans la classe pour répondre aux besoins des tout-petits, avec une technicienne en éducation spécialisée et une psychoéducatrice, écrit le porte-parole Alain Perron. 3 des 4 parents interrogés par Le Devoir n'étaient même pas au courant de cette mesure d'accompagnement pour les tout-petits. L'an dernier, des remplacements à répétition dans certaines écoles ont fait la manchette, obligeant le Conseil des commissaires à prendre position et à adopter une résolution visant à produire un protocole pour tenter de régler le problème le plus rapidement possible dans de tels cas. Ce protocole devait être produit et adopté dès cet automne, mais rien n'a encore été présenté, déplore le commissaire indépendant Jean-François Gosselin, qui avait présenté la résolution en juin dernier. Après le carré rouge des étudiants, place au cœur jaune en appui au mouvement « Mot-clic moi aussi ». 6 féministes québécoises, déjà appuyées par quelques 180 signataires, lancent l'initiative. Et maintenant, pour appuyer les victimes de violences sexuelles et rejeter l'idée de la liberté d'importuner, mise en avant dans les pages du Monde par un collectif de 100 femmes, dont l'actrice française Catherine Deneuve. Le lancement officiel du mouvement symbolisé par un cœur jaune s'est fait dimanche soir pendant l'émission « Tout le monde en parle », qui avait invité les jeunes auteurs, communicatrices et féministes Léa Clermont-Dion, et Aurélie Langteau. À la base de cette prise de parole se trouvent aussi Françoise David, José Beaulieu, Francine Pelletier et Elisabeth Vallet. Ces deux dernières, comme Madame Langteau, sont par ailleurs chroniqueuses au Devoir. On voulait remettre les pendules à l'heure, réitérer notre solidarité aux victimes de moi aussi et rappeler le fondement du mouvement qui est tout sauf une chasse à l'homme, mais plutôt un mouvement de solidarité et de libération de la parole, a expliqué au Devoir Léa Clermont-Dion. La déclaration dès maintenant, qui possède son mot « clic » et maintenant, rappelle que partout dans la société, les femmes sont exposées aux diverses formes de violence ou d'agression sexuelle et qu'elles n'acceptent plus d'être réduites au statut d'objet du désir masculin. Le texte rejette la victimisation et met en avant une force qui enfin s'affiche, en plus de souligner que si les retombées de « moi aussi » sont positives, les révolutions suscitent toujours de l'inconfort. Et maintenant, dit la missive, nous voulons continuer sur cette lancée, les hommes à nos côtés. Parmi les signataires qui sont toutes des femmes, on compte entre autres Marie-France Bazot, Magali Lépine-Blondeau, Lisa Frula, Julie Snyder, Fanny Britt, Emma Verde, Anne-Élisabeth Bossé, Anaïs Barbeau-Lavalette, Brigitte Henkins, Charlotte Cardin et Mélanie et Stéphanie Boulay. Toutefois, hommes et femmes pourront appuyer la déclaration sur la page www.etmaintenant.net. Aurélie Langteau note que plusieurs choses sont en marche depuis quelques mois, comme l'octroi de nouveaux budgets pour les centres pour femmes et hommes victimes de violences sexuelles, ou le projet de loi 151 pour encadrer les cas d'agression à l'université. Et de concert avec le mouvement Québec contre les violences sexuelles, il se prépare quelque chose pour le 8 mars, quelque chose d'assez important, dit Léa Clermont-Dion. D'ici là, les 6 signataires fondatrices espèrent que le public adhérera à l'initiative et à sa déclaration, qui souhaite que les noms s'élèvent quand il le faut, et que ce soit à nos désirs et à nos amours qu'ensemble, hommes et femmes, nous disions oui. Les derniers magasins Sears du Canada ont fermé leurs portes pour de bon après une dernière journée d'activité dimanche, signe de la fin d'une époque. Le grand détaillant a dû déclarer faillite l'an dernier et annoncer à l'automne qu'il liquiderait ses 130 magasins restants, laissant ses 12 000 employés sans travail. À l'image de son concurrent de l'époque, Eaton, Sears était plus qu'un magasin pour les Canadiens, c'était une institution selon plusieurs observateurs. Les fameux catalogues des deux détaillants étaient toujours très attendus par les consommateurs. La percée du commerce en ligne fait partie des nombreux facteurs qui ont contribué aux difficultés de Sears Canada. De plus, les détaillants à bas prix, dont Walmart, se sont multipliés et ont forcé les entreprises comme Sears à réduire leurs prix. Le sort de Sears Canada fait suite à plusieurs autres fermetures dans les dernières années, dont celle plus récente de Target et de Zellers. Un anniversaire marqué par la colère. Au terme d'une semaine de troubles sociaux, les Tunisiens ont marqué dimanche le 7e anniversaire de la Révolution, certains exprimant leur fierté, mais d'autres criant surtout leur colère face à la persistance des maux. Pauvreté, chômage et corruption à l'origine de la chute de la dictature. Sur l'avenue Bourguiba de Tunis, l'un des lieux emblématiques du soulèvement qui fut le point de départ des révoltes arabes, des centaines de personnes ont manifesté. Par groupes séparés pour marquer l'anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali après 23 ans de règne sans partage. Des membres du collectif citoyen Manish Mzama, Je ne pardonnerai pas, ont défilé en brandissant les photos de martyrs de la Révolution, tandis que des jeunes manifestaient pour l'emploi. Des partis politiques avaient installé des stands. L'avenue avait été placée sous très haute sécurité et les arrivants ont été soumis à des fouilles. Même si les défilés se sont déroulés sans incident notable, la grogne sociale qui a récemment refait surface dans l'ultime pays rescapé du printemps arabe était palpable. 7 ans après le départ de Ben Ali, qui vit en exil en Arabie saoudite, nombre de Tunisiens estiment avoir gagné en liberté, mais perdu en niveau de vie. Je vous souhaite un agréable lundi 15 janvier 2018. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne à Canal M de Vues et Voix. À venir, une chanson pour vous remonter le moral en ce Blue Monday, comme nous le disait tantôt Jean-Sébastien, une journée où les gens, paraît-il, se sentiraient plus déprimés que les autres jours de l'année, pour toutes sortes de raisons. Alors, restez avec nous pour avoir le moral à la hausse et puis il y aura aussi la revue de presse du Journal de Montréal.
Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu une. suis venu te dire que tu peux changer.
C'est une nouveauté, ça s'intitule « Fille de personne 2 », c'est interprété par Hubert Lenoir.
En une du Journal de Montréal, meurtre non résolu, la SQ sort l'artillerie lourde. Entre 2002 et 2009, selon l'Ordre des ingénieurs, Longueuil était aussi miné par la collusion. Humour, pas assez de salle pour tout le monde. Des Québécoises connues appuient les dénonciatrices. Elles co-signent une déclaration en soutien au mouvement Mot-Clic Moi aussi. Plus de 180 personnalités féminines québécoises ont signé une déclaration commune en réponse à la lettre publiée en France qui défend la liberté d'importuner des hommes. Je vous en ai parlé tantôt avec la revue de presse du Devoir. Des extraits de cette déclaration, oui, il y a une différence entre un commentaire sexiste et une agression sexuelle. Mais un acte a-t-il besoin d'être criminel pour être inapproprié? S'il est posé sans le consentement de la personne, s'il se répète, si le refus entraîne des représailles, cet acte est un abus de pouvoir. Autre extrait, les femmes n'acceptent plus d'être réduites au statut d'objet du désir masculin. Elles veulent poser leurs limites, dire non, sans craindre le renvoi, l'insulte ou la violence. Chercher justice n'est pas crier vengeance. Et finalement, un autre extrait, la réflexion et le dialogue se sont amorcés positivement dans l'intimité comme dans l'espace public. Tant de femmes, tant d'hommes y voient un souffle et de l'espoir. Ce n'est pas de victimisation dont il est question, mais d'une force qui enfin s'affiche. Pour lire la déclaration complète, etmaintenant.net ou j2m.com/etmaintenant. Une mascotte castor qui a coûté 1,2 million de dollars. Alors, on la voit, la mascotte habillée de vert et de jaune, le personnage de Parka, femelle castor curieuse, ambassadrice de Parc Canada, existe sous forme de mascotte depuis 2011 et se retrouve sur le site de Radio-Canada. Parka, une petite femelle castor curieuse et assoiffée d'aventure, est le personnage créé par Parc Canada pour faire sa promotion auprès du jeune public. Des documents obtenus par le journal montrent les sommes dépensées par les contribuables pour ses nombreux costumes, sa présence en ligne et ses produits promotionnels au cours des 6 dernières années. Parc Canada ignore toujours quel effet a eu cette campagne sur l'attrait de ses sites, puisqu'elle ne calcule pas l'âge moyen de ses visiteurs. Pour Damien Hellgate, professeur en marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi, il est indispensable de mesurer les effets d'une campagne de marketing, surtout après y avoir investi autant d'argent. Je tombe en bas de ma chaise. Aucune entreprise privée ne ferait ça sans faire d'études, avance-t-il. L'âge du visiteur moyen d'un parc national n'a pas été mesuré depuis 2012, première année d'existence de Parka. Il était alors de pas moins de 50 ans, selon une étude de Parc Canada. La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, aussi responsable de Parc Canada, est d'avis que la mascotte fait connaître les parcs auprès des jeunes, endroit qui incarne la quintessence de notre identité canadienne. L'heure de pointe s'annonce difficile cette matinée à Montréal puisque les rues principales n'auront pas toutes été déneigées à la suite de la quatrième opération de chargement de la saison hivernale qui s'est amorcée hier vers 19 heures. Les Montréalais sont d'ailleurs invités à utiliser les transports en commun pour le retour au travail. Ils devront s'armer de patience avant de voir les rues complètement déneigées. On a reçu 36 cm entre vendredi soir et samedi soir, donc on va avoir besoin d'un minimum de 5 jours. On va avancer à raison de 15 % par jour, ce qui veut dire 1500 km par jour, a expliqué Philippe Sabourin de la Ville de Montréal. Au cours des 36 premières heures, la priorité sera donnée aux grandes artères de la ville et aux axes de transport qui desservent les écoles, les hôpitaux, les stations de métro et les circuits d'autobus. Une sexagénaire perd la vie dans un feu évitable, entre guillemets. Diane Charland a perdu la vie dans un incendie qui aurait été déclenché par un article de fumeur se trouvant dans son appartement, selon la police de Montréal. Un de ses plus grands amis, Réal Picard, croit que la sexagénaire pourrait s'être endormie en oubliant d'éteindre sa cigarette, puisqu'elle souffrait de plusieurs problèmes de santé et pouvait s'assoupir de façon soudaine. Je lui disais, si tu es en train de fumer et que tu vois que tu t'endors, éteins-la tout de suite. Mais elle ne m'a pas écouté, on dirait, a relaté tristement M. Picard. Selon lui, Mme Charland souffrait de graves problèmes de dos et d'arthrite rhumatoïde, ce qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant. Elle était incapable de se faire à manger et avait parfois des pertes de mémoire. Pourtant, elle habitait seule dans un appartement du domaine La Rousselière dans le quartier Pointe-aux-Trembles depuis quelques mois. La SQ s'attaque aux meurtres non résolus. Le corps policier va ajouter une vingtaine d'experts à son escouade des crimes contre la personne. La Sûreté du Québec entend redoubler d'efforts pour élucider ces dossiers de meurtres non résolus et quintuple les effectifs de son escouade spéciale, qui devient ainsi une des plus importantes en Amérique du Nord. Avec l'équipe qui grossit, on va avoir beaucoup plus de suspects dans notre mire. Il y a maintenant plus de criminels qui pensaient pouvoir dormir tranquilles, qui risquent de se faire attraper, lance avec assurance le sergent-détective Éric Bolduc, chef d'équipe à l'escouade des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec. Les dossiers qui datent de plusieurs années, surtout ceux des années 60 ou 70, c'est difficile de les relancer. Les témoins, les anciens enquêteurs doivent être en vie. Parfois, il manque des parties du dossier, des éléments de preuve ou des pièces à conviction. On doit aussi composer avec des erreurs ou des omissions du passé, explique le policier Bolduc. Pour améliorer son taux de réussite, l'escouade des crimes non résolus passera ainsi de 5 à 25 employés. Le détective espère ainsi pouvoir donner des réponses à davantage de familles qui souffrent et vivent dans l'incertitude depuis de nombreuses années. Malgré tout, il insiste, ces dossiers sont complexes et certains ne connaîtront probablement jamais de dénouement. Les carrefours giratoires causent plus d'accidents. Pour arriver à ce constat, des ingénieurs engagés par le ministère des Transports ont comparé le nombre et la gravité des accidents à 17 endroits avant 2002 et après 2011-2013, l'implantation d'un carrefour giratoire. Ainsi, le nombre d'accidents au carrefour giratoire étudié a augmenté de 9 % durant cette période, pendant que le nombre de collisions aux intersections conventionnelles a plutôt diminué de 9 % précise la fiche d'information technique. Le portrait est cependant radicalement différent lorsqu'on s'attarde aux accidents avec blessés. Les collisions qui ont provoqué des blessures ou la mort ont diminué de 63 % aux intersections dotées de carrefours giratoires, contre seulement 13 % ailleurs. « Et pour terminer, l'arrondissement de Lachine met en place une halte-garderie lors des séances du conseil d'arrondissement qui se déroule une fois par mois le lundi. Ça permettra aux mères et aux pères de participer à la vie démocratique, s'est réjouie la mairesse de Lachine, Madja Vodanovic, qui précise que l'idée vient de résidents de l'arrondissement. Le hall d'entrée de la salle du conseil accueillera à partir de ce soir la halte-garderie pour les enfants de 3 ans et plus. Le service gratuit sera offert par la garderie Les Amis et moi de 18h30 à 21h30. La mairesse précise aussi que l'heure d'ouverture du conseil est maintenant à 19h pour accommoder les jeunes familles. Les séances s'ouvraient auparavant à 20h. Des initiatives du même genre ont déjà été mises sur pied dans l'arrondissement de Ville-Marie et à l'Hôtel de Ville de Montréal. Les citoyens de Lachine peuvent aussi maintenant avoir accès au sommaire décisionnel qui détaille chaque point de l'ordre du jour, le vendredi précédant la prochaine séance du conseil d'arrondissement.
Couler comme une rivière au loin jusqu'à la mer, comme un parfum dans l'air. Coule dans le vent, le temps doucement, neige dans l'eau claire. Des milliers de fois te dire tout bas comment je t'aime, ne pas tout dire. Quand même collé contre toi, mais passer comme ça, c'est plus fort que moi. Je voudrais libre comme l'eau, couler dans la vie comme la vie, couler sans faire comme si, mais pourrais, c'est demander trop. Le bonheur, ça n'existe pas. J'essaie de t'écrire des mots, composer des chansons, mais je n'aime pas le son. Björk est bien meilleur que moi, ça fait peur. Je suis pas Ben Harper. Je voudrais libre comme l'eau, couler dans la vie comme la vie, couler sans faire comme si. N'existe pas. La vie c'est jamais parfait, jamais noir, jamais blanc, plein d'erreurs, jamais ce qu'on attend, pas facile. Le bonheur c'est jamais longtemps, trop fragile.
La douce voix de Stéphanie Lapointe, libre comme l'eau.
Comme vient de me le dire Jean-Sébastien, lien non voulu. Alors, tournée des journaux régionaux, les sinistrés de Duberger figés dans la tente. Les pelles mécaniques et l'équipement spécialisé avaient beau être déjà sur place dimanche, le débit très élevé de la Saint-Charles empêchait les équipes de s'en servir pour défaire l'embâcle qui a inondé soudainement samedi. Deux rues du secteur Duberger, c'est dans le soleil, Jean-François Clich. Présentement, les débits sont vraiment trop élevés pour pouvoir commencer à travailler avec la machinerie, indiquait le porte-parole du service de protection contre l'incendie de la ville de Québec, Bill Nauman, en fin d'après-midi. Si on se met à défaire l'embâcle tout de suite, ça peut être dangereux pour l'opérateur de la pelle mécanique et il peut y avoir des gros morceaux qui vont partir avec le courant et qui vont créer un autre embâcle plus loin. Mais une brèche a été faite proche du boulevard Père-Lelièvre, donc c'est stable. D'après des données du Centre d'expertise hydrique du Québec, il coulait environ 10 mètres cubes par seconde dans la Saint-Charles à 800 mètres en amont de la Lorette depuis le début du mois, soit quelques m3/s au-dessus de la normale. Mais le redoux et les 30 mm de pluie qui sont tombés la fin de semaine dernière ont rapidement gonflé la rivière jusqu'à 50 mètres cubes par seconde en milieu de journée samedi, après quoi l'embâcle et le refoulement ont empêché le débitmètre du Centre d'expertise hydrique du Québec, qu'on appelle CEHQ, de bien fonctionner. L'embâcle s'est formée sous le pont du boulevard du Père-Lelièvre et l'inondation qui s'est ensuivie fut si subite samedi que des témoins l'ont décrite comme une vague de 3 pieds. Ce sont les riverains des avenues Saint-Léandre et Grandbois qui ont été touchés. Si frustrant que cela puisse être pour les résidents évacués, il faut attendre que le débit descende pour intervenir. D'après ce qu'on a comme information pour l'instant, il pourrait y avoir une baisse demain en parlant d'aujourd'hui, explique M. Newman. Rappelons que 38 résidences où vivent une soixantaine de personnes ont dû être évacuées. Pour l'heure, indique le porte-parole de la police de Québec, Étienne Doyon, il est impossible de s'avancer sur une date de retour. Hier après-midi, les grands froids de la fin de semaine avaient clairement commencé à faire geler l'eau, qui a envahi le secteur quand le soleil s'est rendu sur place. Ceux qui le pouvaient tentaient de vider leur sous-sol à l'aide de pompes, mais tous n'avaient pas cette chance, si le terme convient bien. « J'ai une auto qui est prise dans la glace et mon sous-sol est probablement inondé, mais je n'ai pas pu aller voir », confiait Normand Charbonneau, propriétaire d'une maison sur l'avenue Grandbois. Il y avait des gens de la sécurité publique qui marchaient sur la glace en raquette ce matin et ça cassait par endroits, mais pas partout. « Alors c'est vraiment en train de prendre », s'inquiétait-il. Comme les autres évacués, M. Charbonneau ne sait pas quand il pourra rentrer chez lui, ni dans quel état il trouvera sa maison. Dans la tribune, un pont ferroviaire s'effondre à Sherbrooke, un pont ferroviaire sur lequel circulent fréquemment des trains de marchandises ainsi qu'un pont pour motoneigistes, cadistes et cyclistes se sont effondrés dans la rivière Saint-François à la hauteur de Bromptonville samedi. Selon le chef du service de protection contre les incendies de Sherbrooke, SPIS, Stéphane Simoneau, l'effondrement est probablement le résultat d'un embâcle survenu vendredi après-midi dans la rivière Saint-François. Une autre. La rivière avait alors monté de 6 pieds en 45 minutes, du jamais vu, selon M. Simoneau. Les procédures mises en place par le SPIS, incluant une évacuation préventive du garage municipal, avaient permis d'épargner Sherbrooke des dégâts. Cependant, il y a de bonnes chances que l'embâcle et ses conséquences subséquentes soient responsables de l'effondrement des ponts, indique le chef. Malgré l'ampleur des dommages matériels, Stéphane Simoneau souligne qu'il faut voir le côté positif dans cette affaire. Une chance qu'il n'y avait pas de train, parce que s'il y avait eu un transport de marchandises pendant l'effondrement du pont, je n'ai pas besoin de vous dire que la catastrophe serait beaucoup plus grande. Il n'y a pas de victimes, donc on s'en réjouit. Des ingénieurs sont venus constater l'ampleur des dommages et vont évaluer la logistique nécessaire à la réparation du pont ferroviaire. La compagnie Genesee and Wyoming Canada, propriétaire du chemin de fer Atlantique et Saint-Laurent, aurait l'intention de procéder à une reconstruction le plus rapidement possible. La chronique de Denis Graton dans le droit, le début d'une nouvelle vie pour Sabrina. Je suis contente d'être en vie, maman. Sabrina Mongeon a prononcé ces paroles à sa mère vendredi. Sa sœur Samantha Mongeon raconte ce moment touchant avec beaucoup de fierté dans la voix. Fière est-elle de sa sœur cadette qui a combattu pour sa vie et qui combat toujours. Sabrina ne regrette aucunement son choix de dire Samantha. Ce choix, c'est celui de vivre plutôt qu'abdiquer. C'est le choix que les médecins du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, ont donné à Sabrina avant de lui amputer les deux jambes et les deux bras. Et la jeune fille de 18 ans leur a donné le feu vert. Elle n'avait pas courageusement combattu et survécu pendant 4 heures dans un froid extrême, souffrant de graves brûlures et d'engelures pour se laisser mourir. Et plus les jours avancent, plus Sabrina reprend vie. Sabrina s'est assise dans son lit vendredi dernier pour la première fois depuis son accident de reprendre Samantha. Mais pas longtemps puisqu'elle a eu de fortes nausées. Mais les médecins disent que c'est normal. J'ai pu parler à Sabrina de la vague d'amour qui l'entoure et de la campagne de sociofinancement que j'ai créée. Elle trouve ça incroyable. Elle remercie tous les gens qui ont donné et qui l'appuient. Elle n'en revient tout simplement pas et son moral est bon. Mais plus les jours avancent et plus les médecins diminuent la médication. Donc, Sabrina commence peut-être à comprendre un peu plus l'ampleur de la situation. Mais elle a un bon moral. Elle fait même des petites blagues. Samantha se trouvait à sa résidence de Buckingham il y a quelques jours et elle et son fils de 4 mois, Lucas, le filleul de Sabrina, parlaient avec cette dernière via FaceTime. C'était vendredi dernier de raconter Samantha. Sabrina était assise dans son lit d'hôpital et elle avait un petit tube dans le nez. À un moment donné, elle a dit à mon fils « Regarde, Lucas, j'ai une trompe d'éléphant ». Puis elle s'est mise à faire des bruits d'éléphant pour faire rire son filleul. C'était comique, malgré tout. La mère de Sabrina, Sophie Robertson, est au chevet de sa fille depuis le début de ce cauchemar. Mais ma mère trouve ça dur par moments de dire Samantha. Elle trouve ça difficile parce qu'elle n'a pas toute l'aide et tout l'appui qu'elle souhaiterait obtenir de la part de l'équipe en psychiatrie de l'hôpital. Tu sais, quand Sabrina demande « Maman, ils sont coupés où mes bras et mes jambes? » C'est une question plutôt simple à répondre. Mais dans ce cas-ci, comment répondre pour que Sabrina le prenne bien et pour ne pas la bouleverser? Donc, ma mère trouve ça parfois difficile. Mais elle est forte, c'est incroyable. Et grâce à la générosité des gens, elle peut rester avec Sabrina du matin au soir. La Gatinoise Sabrina Mongeon a été amputée de ses bras et de ses jambes à la suite d'un accident survenu dans la nuit de Noël. Elle est soignée à l'unité des grands brûlés du CHUM depuis ce tragique accident dans lequel elle a été électrocutée. Elle a miraculeusement survécu seule dans le froid pendant 4 heures avant qu'un passant l'aperçoive et lui porte secours. À midi dimanche, la campagne de sociofinancement lancée en ligne par sa sœur avait permis d'amasser plus de 160 000 $. Dans une chronique publiée il y a 2 mois intitulée « L'âme de Montfort », je vous ai présenté Gilles Ménard, un résident d'Embrun qui offrait depuis plus de 11 ans près de 40 heures par semaine de bénévolat à l'hôtel Montfort. « Tant que je pourrai, je vais remettre de mon temps à la société », m'avait-il dit. « On voit toujours des plus malades que nous, et je pense que chacun d'entre nous a une certaine responsabilité envers la société », avait-il ajouté. Or, c'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de M. Ménard. Il s'est éteint mercredi dernier à l'âge de 72 ans après une longue lutte contre une maladie pulmonaire. Mes sincères condoléances à sa famille, à toute l'équipe de l'hôpital Montfort et à l'armée de bénévoles de cette institution. Son chaleureux sourire nous manquera. Merci pour tout, M. Ménard. Une policière qui remplissait un rapport d'accident en bordure de la route a été happée par un véhicule vers midi samedi à l'intersection de la rue Sainte-Anne et du boulevard de l'Université à Chicoutimi. C'est dans le quotidien d'aujourd'hui. La policière de la sécurité publique de Saguenay s'en tire avec des douleurs au cou. Elle a été transportée en ambulance à l'hôpital de Chicoutimi, mais ses blessures seraient mineures. La dame écrivait un rapport d'accident après qu'une collision soit survenue à l'intersection Sainte-Anne et Université, lorsqu'un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et a happé la policière qui était sur le trottoir. Le conducteur a perdu le contrôle en raison de la chaussée glissante. Tant sur le territoire couvert par la SPS que sur celui de la Sûreté du Québec, quelques accidents mineurs sont survenus au cours des dernières heures. On ne dénote aucun blessé grave. Et pour terminer, mené par la capitaine Emilia Gagné, le jeune quatuor du club Riverbend Alma a enlevé les grands honneurs du championnat provincial de curling féminin Scotties dimanche sur les glaces du club Etchemin de Lévis. Une grande première pour une équipe junior et un baptême du feu des plus réussis pour Emilia Gagné et ses coéquipières Mélina Perron, Marie-Pierre Harvey et Chloé Arnault. Les Janoises représenteront donc le Québec au tournoi des chœurs Scotties qui se déroulera à Pantington, en Colombie-Britannique, du 27 janvier au 4 février. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. À venir, l'actualité culturelle, je vous lirai entre autres un article intitulé « Catherine Deneuve assume et s'excuse ». Et on aura aussi la section libre juste avant les paractualités.
J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Des bouts de phrases ramassés dans des téléphones, des photos d'amis à faune, le bombardement d'informations qui s'élance dans toutes les directions, des pigeons qui s'envolent, un couple qui traverse l'avenue, un camion qui vrombit, des gens qui marchent funambules sur le fil téléphonique de mes salles, les micro-moments de gloire, un message raciste sur un mur soudain devenu si triste, les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie, et moi qui sors de ma réserve. J'espère que je ne te fais pas la morale. Tu sais, je n'en sais pas plus que toi. J'espère que je ne te sape pas le moral. Je raconte juste ce que je vois. Le commencement du jour est sans mémoire. Il repose sur la table des constellations. Une forêt d'un bleu sombre sur une carte postale sans adresse. Le commencement du jour n'est que paresse qui repose sur le dos de nos ivresses. La vérité est une espèce menacée et toutes les énigmes semblent résolues. Dans des concours de popularité, les écrans qui nous laissent sans refuge, le métro qui sort du tunnel, ma voisine qui sort de sa rêverie, et moi qui sors de ma réserve.
Musique quelque peu expérimentale, nouvel extrait de Jérôme Minière, « La vérité est une espèce menacée ».
Allons-y donc avec la culture, spectacle temporel, une production de la Place des Arts et de Lemieux Pilon 4D Art avec la collaboration des Sept Doigts. Les Sept Doigts qui ont été rebaptisés parce qu'avant c'était les Sept Doigts de la main, maintenant ce sont les Sept Doigts tout simplement. À la 5e salle de la Place des Arts, donc jusqu'au 27 janvier, c'est la critique de Jean Siag dans la presse d'aujourd'hui qui accorde au spectacle 3 étoiles et demie sur 5. Et sa critique est intitulée « Entre poésie et burlesque ». Cette première collaboration entre le tandem Lemieux et les Sept Doigts s'est faite dans la plus grande discrétion. Il y avait pourtant matière à claironner. Michel Lemieux et Victor Pilon, créateurs d'effets visuels spectaculaires, notamment avec le Cirque du Soleil, mais aussi au théâtre avec Icare, La Belle et la Bête, Norman, etc., aux côtés d'artistes de cirque dotés d'un penchant théâtral, les espoirs étaient grands de voir naître un projet phénoménal. Ironiquement, les concepteurs de cette fable acrobatique sur le temps qui passe ont peut-être manqué de temps pour lier tous les éléments scéniques de ce spectacle visuel éblouissant, qui mêle les genres et les ambiances avec une certaine maladresse. Cela dit, il y a de magnifiques tableaux qui combinent tous les talents, à commencer par la scène d'ouverture, où nous sommes en présence d'un couple âgé qui se remémore ses jeunes années. Patrick Léonard et Isabelle Chassé, qu'on ne voit pas souvent sur scène, y vont d'une superbe chorégraphie, tantôt avec masque, tantôt sans, sur une scène inclinée, vers le public, appuyé par des projections de leurs personnages à différents âges. Un troisième personnage, Gisle Henriette, incarne le temps, celui qui passe, qui fait qu'on oublie, qu'on se rappelle, qu'on désire, qu'on regrette, et qui nous fait réaliser qu'on n'a pas vraiment d'âge. Un très beau flash qui permet des interactions acrobatiques avec les deux personnages principaux. Les livres que l'on retrouve dans la bibliothèque sont abondamment utilisés dans les chorégraphies, mais parfois de façon abusive ou incohérente. Et puis, il y a ces brusques changements de ton, de rythme et de genre, où Patrick Léonard, qui vient de représenter son spectacle clownesque patinoire à la Tohu, pêche par excès de zèle dans ses interprétations à la Buster Keaton, notamment dans une scène dramatique où l'appartement du vieux couple prend feu. On fait ici dans le slapstick notre homme déguisé en pompier glissant sans cesse de son échelle en poussant des O et des A à retirer, point d'exclamation, écrit Jean Siague. C'est dans cette scène-là que Temporel perd tout son sens, sa subtilité, sa poésie. Parce qu'aussitôt après, on retrouve le petit écrin cynique dans lequel évoluent les personnages. Dans une des scènes les plus touchantes, le vieil homme est attiré par le spectre de sa femme disparue, éloigné par le temps qui le distance sans cesse. Dans un autre très beau segment, on retrouve le personnage féminin, jeune, face à un cerceau qui fera office de miroir, mais qui servira à exécuter une très jolie chorégraphie où se mêlent le présent et le passé. C'est dans ces moments-là qu'on sent les effets spéciaux de Lemieux-Pilon bien ancrés dans la dramaturgie de Temporel. Même si certaines illusions, comme le dédoublement de Patrick Léonard, sont impressionnantes en soi. Le dernier tableau est extrêmement émouvant. L'hologramme du personnage masculin à l'adolescence entonne avec le temps de Léo Ferré avec sa voix encore enfantine. Une chanson extraordinaire, tout le monde en conviendra, mais qui vous rendra cafardeux pendant au moins 2 jours. Peut-être qu'un couplet aurait suffi. Bref, espérons que ce spectacle continue de se peaufiner et de se resserrer parce qu'il y a de riches idées et de magnifiques images dans ce Temporel plein de promesses, bien meilleur sans ces tentatives burlesques. Deneuve assume et présente ses excuses. C'est un texte de Séverine Roubi, publié dans Le Devoir d'aujourd'hui. Catherine Deneuve, signataire vedette d'une tribune sur la liberté d'importuner à l'origine d'une polémique enflammée en France comme à l'étranger, a présenté dimanche ses excuses aux victimes d'agressions tout en assumant ce texte vigoureux, à défaut d'être parfaitement juste. « Je salue fraternellement toutes les victimes d'actes odieux. Odieux, qui ont pu se sentir agressés par cette tribune parue dans Le Monde, c'est à elle et à elle seule que je présente mes excuses », écrit l'actrice dans une lettre publiée par le quotidien Libération sur son site Internet. La tribune parue mardi dans Le Monde défend la liberté d'importuner pour les hommes, l'estimant indispensable à la liberté sexuelle, à contre-courant de l'élan né de l'affaire Weinstein. Si le texte était signé par une centaine de femmes, c'est la plus célèbre de ses signataires qui a concentré les critiques. Catherine Deneuve et d'autres femmes françaises racontent au monde comment leur misogynie intériorisée les a lobotomisées au point de non-retour, avait notamment fustigé l'actrice Asia Argento, qui a accusé le producteur américain Harvey Weinstein de l'avoir violée. Il y a, je ne suis pas candide, bien plus d'hommes qui sont sujets à ces comportements que de femmes. Mais en quoi ce hashtag « balance ton porc » n'est-il pas une invitation à la délation? Dit Catherine Deneuve. J'ai effectivement signé la pétition. Oui, j'aime la liberté. Je n'aime pas cette caractéristique de notre époque où chacun se sent le droit de juger, d'arbitrer, de condamner, explique Catherine Deneuve, qui s'exprime pour la première fois depuis la parution de la Tribune. Une époque où de simples dénonciations sur les réseaux sociaux engendrent punitions, démissions et parfois et souvent lynchage médiatique. Je n'excuse rien. Je ne tranche pas sur la culpabilité de ces hommes, car je ne suis pas qualifiée pour. Et peu le sont, poursuit-elle. Il y a, je ne suis pas candide, bien plus d'hommes qui sont sujets à ces comportements que de femmes. Mais en quoi ce hashtag, donc je répète, balance ton porc, n'est-il pas une invitation à la délation? Va-t-on brûler Sade en Pléiade, désigner Léonard de Vinci comme un artiste pédophile et effacer ses toiles, décrocher les Gauguins des musées, détruire les dessins d'Egenschill, d'interdire les disques de Phil Spector? Ce climat de censure me laisse sans voix et inquiète pour l'avenir de nos sociétés. Alors plus haut, elle écrivait qu'elle s'inquiétait en outre du danger des nettoyages dans les arts. Avant cette tribune, l'actrice s'était déjà attirée les foudres de féministes en soutenant Roman Polanski, accusé de viol, un réalisateur avec qui elle tourna Répulsion. Rappelant son engagement féministe à l'époque de la signature du Manifeste des 343, revendiquant en 1971 un avortement alors criminalisé, Deneuve se désolidarise toutefois des propos tenus par certaines de ses co-signataires. Dire sur une chaîne de télé qu'on peut jouir lors d'un viol est pire qu'un crachat au visage de toutes celles qui ont subi ce crime, estime-t-elle en référence à des déclarations de l'animatrice de radio et ancienne star du porno Brigitte Lahaie. Évidemment, rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a du bon, sans quoi je ne l'aurais pas signé, assure Deneuve, qui confie avoir été durant sa carrière témoin de situations plus qu'indélicates. Mais pour elle, la solution viendra de l'éducation de nos garçons comme de nos filles, mais aussi éventuellement de protocoles dans les entreprises qui induisent que s'il y a harcèlement, des poursuites soient immédiatement engagées car elle croit en la justice. La réponse de Deneuve, attendue ce lundi à Angers au Festival Premier Plan, où elle préside le jury, était guettée par, après les nombreuses réactions cette semaine en France comme à l'étranger. En France, la Tribune avait été critiquée par des militantes féministes et des personnalités politiques. Je voudrais dire aux conservateurs, racistes et traditionnalistes de tout poil qui ont trouvé stratégique de m'apporter leur soutien, que je ne suis pas dupe. Ils n'auront ni ma gratitude, ni mon amitié, bien au contraire, écrit l'actrice dimanche. Le 12e Igloo Fest démarre jeudi avec pour tête d'affiche Keitra Dana, Montréalais qui brille de tous ses feux sur la planète entière. Près d'une cinquantaine de DJ producteurs seront associés à presque autant de VJ pour stimuler les nuitards à s'éclater sous le point de congélation. En retournant à la formule compacte de trois week-ends, une première depuis 2012, les promoteurs d'Igloo Fest font le pari d'attirer autant de monde en misant sur l'urgence du moment. Quelques artistes présents, il y aura Petit Biscuit, aussi Michael Sparks, Oliver Heldens, Rafa Barrios, aussi Sasha and John Digweed, ainsi que Ento Warwalks, Jay Pastor. Bon Igloo Fest.
On était jeunes, on se croyait dans un film. Dans un tableau de Picasso, on était une jeunesse pleine d'ivresse, dessinant nos portraits si abstraits. une sorte de révolution. Et puis nos rires, et puis son sourire. On marchait et on se regardait.
Extrait de Lulu Gainsbourg, Jeu d'enfant.
Sujet libre, techno, gestion des écrans, reprendre enfin, entre parenthèses, le contrôle. L'inquiétude au sujet du temps passé par les jeunes devant les écrans ne date pas d'hier. Par contre, le drapeau rouge levé par des investisseurs d'Apple la semaine dernière ravive les préoccupations de nombreux parents. Peut-on encore aider nos enfants à garder le contrôle? C'est un article d'Isabelle Audet. Au début du mois, deux investisseurs ont demandé à Apple de trouver des moyens de limiter l'utilisation de ses produits par les enfants. Le géant a alors annoncé qu'il bonifiera sous peu les options de contrôle parental sur ses appareils. Car en fin de compte, il revient aux parents d'aider leurs enfants à trouver un équilibre. Avant de bannir les écrans, il existe des solutions concrètes pour en gérer l'utilisation à la maison. Pour les connaître, nous en avons discuté avec 7 spécialistes. Se connaître avant d'agir. Afin de favoriser une prise de conscience en famille, il peut être d'abord pertinent de comptabiliser le temps d'écran sur un tableau, suggère l'équipe de Québec en forme. Tous les membres de la famille, eh oui, se prêtent à cet exercice au cours d'une période prédéterminée. Chaque personne note le temps qu'elle a passé à utiliser la technologie et pourquoi elle y a eu recours. On a alors une base de discussion plus solide pour encadrer l'utilisation des écrans à la maison. De plus, on peut plus facilement souligner ce que l'on considère comme du temps d'écran de qualité, ou pas, ajoute Thierry Plante, spécialiste en éducation aux médias pour Habilo Média. Alors, on voit un tableau sur lequel est écrit « temps d'écran » et à côté « ce que j'ai fait ». Donc, une heure, YouTube, 30 minutes, Candy Crush, 3 heures et ça continue comme ça. Qui a le contrôle? Cette prise de conscience est cruciale, souligne Jean-Michel Pelletier, psychologue. Avec les adolescents, il précise qu'il peut être intéressant d'aller plus loin. Le psychologue qui se spécialise en motivation fait entre autres comprendre aux jeunes comment les grandes entreprises cherchent à monopoliser leur attention. Il leur explique comment, avec un graphisme efficace et un système qui récompense les utilisateurs assidus, elles arrivent à rendre les utilisateurs accros. Les adolescents n'aiment pas être contrôlés, ni par leurs parents, ni par une entreprise, souligne-t-il. Le psychologue ajoute que bien souvent, lorsqu'ils constatent qu'ils n'ont pas le plein contrôle, les jeunes se montrent plus ouverts aux stratégies pour s'éloigner des écrans. Gestion visuelle du temps. La Société canadienne de pédiatrie recommande de ne pas laisser les enfants de moins de 2 ans devant des écrans. À cet âge, la priorité va être mise sur la socialisation, précise Stéphanie Lebrun, psychologue en milieu scolaire. Par la suite, pour amener les enfants à prendre eux-mêmes des décisions, Solène Bourque et Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrices, suggèrent l'utilisation de coupons, de jetons ou de billes pour matérialiser le temps passé devant les écrans. Chaque objet permet, par exemple, l'utilisation d'un temps prédéterminé, entre parenthèses 15 ou 30 minutes par exemple, de tablettes ou de jeux vidéo. Si l'enfant dispose d'une heure le samedi, il doit ainsi l'utiliser à bon escient. Il devient alors responsable de la gestion de son temps d'écran. On sait aussi que les enfants ont tendance à se conformer aux demandes lorsqu'ils ont une marge de manœuvre et un certain contrôle, explique Stéphanie Deslauriers. Privilégier les aires communes. Tous les intervenants s'entendent sur ce point. L'utilisation des appareils mobiles, jeux vidéo et ordinateurs comporte moins de risques lorsqu'elle a lieu dans une pièce commune. Et ce, peu importe l'âge de l'enfant, précise Solène Bourque, psychoéducatrice. À l'adolescence, certaines circonstances peuvent permettre l'utilisation d'un écran dans une chambre, mais pour favoriser les discussions et les rigolades au sujet d'une vidéo comique aussi, les parents ont tout avantage à demander aux jeunes de s'installer au salon, quitte à utiliser des écouteurs. S'il survient une situation dérangeante pour notre ado, on va le voir dans son visage. S'il est dans sa bulle, dans sa chambre, on ne le verra pas, ajoute la psychoéducatrice. Apprivoiser l'ennui. La psychologue scolaire Stéphanie Lebrun note que partout les téléphones intelligents et les tablettes sont utilisés pour combler un temps d'attente. Elle insiste toutefois sur l'importance d'apprivoiser ces moments et de faire du temps d'écran une récompense plutôt qu'un réflexe pour se désennuyer. C'est une solution facile. On peut toutefois préparer un sac d'activités ou proposer des petits jeux pour attendre, affirme la psychologue. C'est correct et c'est normal d'avoir besoin d'un moment de répit une fois de temps en temps, ajoute Amélie Méchart, psychoéducatrice. Par contre, avec les plus petits, si on voit l'écran comme une occasion de passer du temps ensemble, plus que comme un outil qu'on utilise toujours pour les occuper, on les aide à voir les écrans différemment dès le plus jeune âge. Ranger les appareils, sortir les jeux. À la maison, les tablettes s'ajoutent souvent aux téléphones intelligents et aux ordinateurs portables. Difficile alors de faire la gestion de tous ces appareils, en convient Thierry Plante. Pourquoi ne pas créer un espace de chargement unique pour s'assurer, le soir venu, qu'aucun appareil n'est oublié dans une chambre? Amélie Méchert suggère d'ailleurs que les appareils ne soient pas rangés à portée de main pour éviter qu'on les utilise trop fréquemment. Profitons-en pour mettre les jeux de société plus en vue pour qu'on ne les oublie pas, propose Stéphanie Deslauriers. Ce temps de jeu prendra inévitablement du temps qu'on aurait peut-être consacré aux écrans, ajoute-t-elle. Donnez l'exemple. Tous les spécialistes interrogés insistent sur ce point. Il est souvent tout aussi difficile pour les parents de se détacher de leurs appareils mobiles. Or, les gestes ont une portée éducative plus grande que les paroles, explique-t-il. On fixe des limites, mais ce genre de contrat fonctionne encore mieux si le parent a des règles à respecter lui aussi, explique Thierry Plante. On peut s'amuser et donner des conséquences même aux parents, avec humour. En discuter ouvertement. Ne pas utiliser d'appareil à table. Fermer tous les écrans au moins 2 heures avant le coucher. Ne pas dormir avec un téléphone intelligent à portée de main. Les parents fixent des limites, mais si elles sont issues d'une discussion ouverte en famille, Les règles sur l'utilisation de la technologie auront une meilleure portée. C'est l'occasion pour un jeune d'expliquer, par exemple, qu'il a besoin d'un bloc de 90 minutes pour terminer une partie de son nouveau jeu vidéo. Les parents prennent le temps de comprendre ce qui l'intéresse et ils ajustent le temps d'écran en conséquence. Si les limites sont cruciales, l'empathie et la discussion sont des avenues gagnantes, assure Jean-Michel Pelletier. Diminuer graduellement. On constate qu'on a collectivement perdu le contrôle? Résistons à la tentation de tout arrêter d'un coup. Pour les jeunes qui jouent 5 heures par jour, passer à 2 heures peut être très difficile, souligne Solène Bourque. Au cours d'une discussion en famille, il peut être convenu de diminuer progressivement le temps d'écran quotidien 30 minutes à la fois, jusqu'à arriver à une utilisation plus convenable. Il faut aussi comprendre que la distinction entre la vie en ligne et la vie hors ligne est beaucoup plus floue pour les adolescents. Si on n'y va pas trop fort, ça peut avoir un impact sur leur vie sociale, qui est extrêmement importante. C'est plutôt si on y va trop fort, ça peut avoir un impact sur leur vie sociale qui est extrêmement importante, ajoute Thierry Plante. Et si rien ne fonctionne? Enfin, au-delà de toutes ces stratégies, il peut être pertinent de consulter un professionnel en certaines circonstances. Si l'on constate que notre enfant s'isole, si on remarque qu'il a des difficultés de sommeil, si son comportement change, si son rendement académique est affecté, il peut être important d'aller chercher de l'aide, ajoute Stéphanie Lebrun, psychologue. Des ressources, consultez les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, lisez les astuces pour limiter le temps d'écran de Wix Mag, consultez le site Abilo Media et regardez la vidéo conçue par Jean-Michel Pelletier pour les adolescents. Tous les liens sont dans la presse d'aujourd'hui. Quelques 1700 communes du Japon sont dotées de modèles personnalisés colorés de ces plaques de fonte pour embellir leur espace public. Les motifs font généralement référence à l'histoire, à la géographie ou à des spécialités locales. Un château fort pour Osaka ou le mont Fuji pour la ville du même nom située au pied du célèbre volcan. Tama City, ville de la banlieue ouest de Tokyo, a quant à elle choisi une icône plus récente, le chat Hello Kitty. Il orne 10 plaques d'égout, alors des plaques d'égout transformées en œuvres d'art au Japon. Ici Hélène Denis, merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Je vous invite à rester avec nous. Dans un petit moment, j'anime les paractualités si vous nous écoutez en direct. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et au choix musical.